Bonjour, vous êtes bien dans notre émission Underscore, je vois, c'est bientôt l'heure de ressortir, quelque chose d'ancien, quelque chose de bleu. Je ne vous en dis pas plus et je saute dans le tardi pour vous en parler.
Lisa, tu as beaucoup d'humour aujourd'hui. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Cécile.
Bonjour Matt qui nous écoute, je suppose, de là où tu es.
Oui, on le reverra sûrement bientôt, mais il est toujours très occupé.
Alors effectivement, aujourd'hui, quelque chose de bleu, quelque chose d'ancien. Tu vas tout nous expliquer dans pas longtemps.
Mais un petit peu d'actu d'abord.
Un peu d'actu. Alors, Firefox supprime la gestion intégrée des flux RSS.
Ouais, va falloir utiliser des extensions à la place ou un autre lecteur. Alors, Thunderbird sait encore faire, par exemple. Donc voilà, on vous met quelques liens pour trouver. Je crois qu'on n'a pas fait de sujet sur RSS. Faudra qu'on explique ce que c'est exactement.
Les flux RSS.
Ouais, parce que c'est très pratique.
Quand même.
Alors, bientôt, TLS 1.0 et 1.10 aussi bientôt supprimés dans Firefox.
Waouh, ils se sont mis d'accord avec Google, Microsoft et Apple. Les quatre principaux navigateurs web annoncent l'abandon du prochain des plus vieilles versions d'un protocole de sécurité considéré comme obsolète.
Bah oui, parce qu'on est à la TLS 1.2, voire 1.3, donc les autres, c'est vieux et c'est plein de trous.
Allez dehors.
Et d'ailleurs, Mozilla cherche des sous. Alors même si on n'est pas toujours d'accord avec leur stratégie, il faut quand même beaucoup de choses pour le web ouvert, donc il faut les soutenir. Hein.
Et puis ils font des jolis goodies.
Ouais.
Nos oignons revient
sur l'année écoulée et lance une campagne de dons. Donc voilà, l'asso qui fait tourner des nœuds Tor a besoin de financement pour continuer à défendre l'anonymat sur Internet. Donc donnez.
C'est pas que du deep web.
Ouais. C'est pas que pour les pirates.
Non, c'est pas que pour les pirates. Des fois, on a des données sont utiles et qui ne sont pas forcément référencées dans les différentes... Nouveau site web pour l'Aldil.
Donc la peinture est encore fraîche. Alors, comme je les cite, sa mise en ligne a été un peu avancée. Nous travaillons encore sur certains détails, mais les premiers retours sont très favorables. Encore un jour, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire un retour via la page, nous contacter.
Je rappelle que l'Aldil est l'association qui organise les journées du logiciel libre toutes les ans à Lyon.
C'est ça. Alors, nouveau site web aussi pour la quadrature du net.
Ah, très sobre, en noir et blanc. La classe, quoi.
Ouais, c'est la classe. Et puis la campagne de dons arrive la semaine prochaine.
Ah. Interview de Jeremy Zimmerman dans Thinkerview.
Ouais. Alors il revient sur l'historique de l'asso, son parcours depuis, parce qu'on vous annonçait qu'il avait quitté la quadrature net, mais il explique un petit peu pourquoi tout ça. Et voilà, mais c'est intéressant.
Bien, F-Droid arrive en version 1.5.
Et le projet a deux nouveaux serveurs de compilation grâce au GCC Compile Farm Project qui met à disposition donc des serveurs pour pouvoir compiler des logiciels libres dessus.
Oh non, ça, j'y crois pas. Apple et Samsung sanctionnés en Italie pour obsolescence programmée. C'est pas vrai.
Ces sociétés ont mis en œuvre des pratiques commerciales malhonnêtes.
Non.
A conclu l'autorité italienne à l'issue de son enquête. Donc voilà, l'autorité garante de la concurrence en Italie a infligé le 24 octobre dernier une amende de 10 millions d'euros à Apple.
Paf, dans les dents.
Ouais. Et une autre de 5 millions d'euros à Samsung dans le cadre de son enquête pour l'obsolescence programmée.
Ça, c'est pas bien. Et puis aux US, on aura enfin le droit de casser les DRM pour réparer.
On vous avait déjà parlé des tracteurs réparés avec des firmware pirates, parce que. Et ben le bureau du copyright américain a donc décidé qu'il serait maintenant légal de casser un DRM si c'est pour assurer une maintenance ou la réparer dans les conditions prévues du fonctionnement.
Bien sûr.
Pour détourner, parce que on sait jamais.
Des fois que tu puisses.
C'est déjà une avancée. Hein, bon.
Des fois que tu puisses tuner ton tracteur
pour
qu'il aille
en avion,
plus vite.
Quoi. Enfin, je...
Ou qu'il aille sur l'autoroute pour passer les péages à 140 km/h.
T'imagines un GoFast en car en tracteur.
En tracteur. Un nouveau téléphone avec KDE Plasma.
Ouais, Pine 64 qui produit déjà des ordi portables pas chers et puis assez ouverts va sortir le Pine Phone. Moins cher que le Purism 5, puisqu'un modèle à 100$ devrait être disponible avec 2Go de RAM et 16Go de stockage. Ce mois-ci, des kits de développement devraient être envoyés à certains développeurs.
Ça, c'est bien. Les Français salariés, mal préparés à l'intelligence artificielle.
Selon le World Economic Forum, il faudrait en moyenne 105 jours de formation par salarié pour rattraper le retard. Et si on supprimait juste le travail ?
Le revenu universel, ça nous suffirait bien. Hein.
Exactement, comme disait Coluche, des sous nous suffiraient.
C'est ça. Ouverture d'un nouvel Apple Store en Moselle.
Ouais, alors enfin, Apple avec des guillemets. En fait, c'est pour le coup, ce sont des vraies pommes qui sont présentées dans un décor digne d'un magasin hors de prix parce que ça ressemble vraiment à un Apple Store. Il y a des présentoirs avec une pomme, un présentoir avec une autre pomme.
Ah voilà. Non, c'est pas vrai, ils ont fait
comme,
le truc.
Comme les vrais, quoi, hein, comme les vrais.
Oh, trop fort. Oui, non, va revenir.
Ouais, les nouveaux propriétaires du logiciel veulent faire une version mobile spécifiquement pour le streaming, mais il y a déjà une version qui va sortir bientôt avec quelques mises à jour pour que ça remarche de l'original, quoi.
Ça, c'est bien. Google va faire payer les fabricants pour inclure ces applications dans leur téléphone. Tiens donc, ils ont pas déjà assez de sous avec nos
ben,
données.
Non, parce que en fait, voilà. Non, pour garder, en fait, c'est pour garder la partie libre Android libre, oui, en fait, et gratuite, oui, et être en conformité avec l'addition de la Commission européenne. Bah, ils veulent faire payer pour inclure les applis, donc il va falloir choisir, quoi.
Ah, ils savent pas où chercher les sous, là.
Non, et puis alors, en parlant de Google, à Berlin, bah, ils se voient proposer l'ancien siège de l'ancien QG de la Stasi pour installer,
oui,
son siège.
Ah, j'ai trouvé ça formidable.
Et ouais, parce que voilà, après la fuck off Google, là, c'était une campagne pour virer Google parce que Google voulait s'installer à Kreuzberg sur une ancienne friche industrielle et les riverains ont dit non. Donc ils ont bien fait une grosse campagne pour les virer. Ouais. Des élus berlinois ont donc proposé à Google de s'installer dans l'ancien quartier général de la Stasi. Au moins c'est cohérent.
Oui, parce que c'est vrai que même la Stasi n'aurait pas rêvé d'avoir un outil aussi évolué pour connaître les gens jusqu'au bout des doigts, quoi.
Pour eux, Google, c'est le nirvana, quoi.
C'est clair, s'ils étaient encore vivants, bref,
ouais,
vaut mieux pas.
Ouais.
Le premier bilan RGPD de la CNIL.
À l'occasion, à l'occasion du mois Tous SecNum, donc Tous pour la sécurité numérique, je suppose. La CNIL dresse un premier bilan chiffré des notifications de violation de données personnelles depuis la mise en place du RGPD.
Alors, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées pénalisées.
Bah, quelques-unes, ouais. On verra la semaine prochaine, il y a des trucs dans les fails du mois.
Ah, un FAI britannique teste une carte SIM qui force toutes vos données mobiles via Tor. Oh
ouais, donc en évitant d'être en ligne sans protection de la vie privée. Ça, c'est intéressant, ça faudra qu'on teste.
On va développer ça.
Ouais.
Mais tout de suite, une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après avec quelque chose de bleu, quelque chose d'ancien. We'll be right back. ça dépote, hein.
Ah oui, j'allais le dire, ça dépote.
C'était Aleph Sandstorms, donc c'était la version de Bongo Cat. Alors si vous faites un petit tour sur YouTube ou sur Facebook, si vous tombez sur Bongo Cat, les mêmes, eh ben vous allez pas être déçus parce que c'est des gentils petits chats mignons qui reprennent plein de tubes, plein de musiques connues et j'adore.
Ah, je me rappelais pas que c'était des chats qui faisaient ça, moi.
C'est des chats.
Ouais, c'est des chats.
Spécial dédicace à Matt.
Ouais.
Est-ce que tu as trouvé du courrier?
Tu veux vraiment qu'ils reviennent, en fait?
Ouais, je veux qu'ils reviennent. Tu as retrouvé du courrier parce que, oui, les auditeurs, nous avons enfin une boîte aux lettres.
Oui, oui, oui.
Donc vous pouvez aussi nous écrire en papier au 50 rue Prompso à Valence.
Voilà, oh. Chez Radio Méga. Et on a chaque émission. Une boîte aux lettres, un petit casier.
Donc nous, on en a une aussi. Et maintenant, nous allons passer à ton sujet. Donc, qu'est-ce qui est bleu? Qu'est-ce qui est ancien?
Eh ouais, ouais. Donc cette fois, j'aimerais vous parler de quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu. Non, alors je vais vous parler d'une boîte bleue, mais pas celle-là. Ah. Pas celle qui permet d'analyser sur Internet non plus. Non, en fait, je vais pas vous parler du TARDIS. Mais d'une boîte bleue quand même qui est aussi plus grande à l'intérieur. Et ouais, en fait, ça s'appelle la B-Box. Alors, c'est pas le truc de Bouygues, non, ça s'appelle une B-Box.
Ouais, c'est B-Box.
Donc, c'est B-Box.
Donc, la B-Box.
Donc, la B-Box, qui ça coûte? Alors, d'abord, une petite histoire, un tout petit point sur l'histoire de B, en fait. C'est une entreprise qui s'appelait B Inc., qui a donc créé ça. En fait, ça a été créé par... Jean-Louis Gasset, un grand fromage, c'est un Français.
Oh oui!
Qui a été directeur d'Apple Europe. Et puis, alors, je crois savoir qu'il ne s'entendait pas trop avec Steve Jobs. Et puis à un moment, c'était à l'époque des Mac, déjà Mac OS 8, 9 par là, où bah, en fait, il en avait marre que les Mac soient monotâches, c'était nul pour le multimédia et tout. Donc, il est parti, il s'est cassé, il a fait sa boîte. Il a dit, je vais faire une machine, enfin, parce que c'est comme Steve Jobs, hein, c'est pareil, c'est pas lui qui a tout fait avec ses petits bras musclés et puis c'est son... Voilà, tu peux répondre, Cécile, vas-y.
Non, je sais pas pourquoi. Vas-y, je
t'écoute. Vas-y. Et puis, il a dit, ouais, on va faire une machine pour le multimédia avec plusieurs processeurs et tout, voilà. Et donc, il a monté une équipe, il a monté une boîte et puis il s'est lancé et donc il a créé Bi. Et donc, à un moment, d'ailleurs, leur slogan, c'était pas Think Different, c'était Be Different.
Ah oui.
Ouais, et donc, voilà, l'histoire est assez entremêlée avec Apple. Il y a des choses qui ont été empruntées d'Apple, parce que, voilà, ça vient de là, plus ou moins. Ils ont créé la B-Box. Donc, c'est une machine qui était prévue pour le multimédia, pour changer, parce que à l'époque, ouais. le Macintosh, c'était une boîte beige qui savait faire qu'une chose à la fois.
C'était une révolution. Hein.
Ouais,
j'avais vu le truc extraordinaire. Tu pouvais lire des vidéos comme ça, les unes empilées sur les autres.
Il y avait plusieurs démos sympas qui étaient faites à l'époque. Alors, une déjà, c'était de débrancher la prise et puis de rebrancher la prise. Et là, tu vois que la machine, elle démarrait, elle passait pas 20 minutes à faire scan disque, machin. Et puis une autre, effectivement, c'était de lire 3-4 vidéos en même temps à l'écran, sans que ça saccade et tout. Puis de déplacer les fenêtres et tout. Et miracle, les fenêtres, elles se déplaçaient avec le contenu. Sous ouais. Windows, ou même sur Mac, on avait juste le contour qui se déplaçait quand tu déplaçais la fenêtre. Et donc voilà, déjà au niveau du design, le boîtier il était différent hein, parce que à l'époque j'ai dit les Mac étaient beige, les PC étaient beige, tout était beige. Et là en fait il y avait des modèles blancs et des modèles bleus, donc avec un capot bleu et puis une façade très travaillée. En fait ça rappelle un peu un temple antique, vous savez les colonnes avec des
colonnes romaines,
tout un peu voilà. En fait, c'est un temple du multimédia, quoi, en fait. En fait.
Oh, quel objet!
Ouais, ouais. Et donc, si on ouvre la boîte, hein, parce que c'est intéressant, les boîtes, c'est bien, mais c'est mieux quand on ouvre et qu'on regarde ce qu'il y a dedans.
Tout à fait.
La carte mère, elle est jolie. Hein. Alors, on vous mettra des liens aussi hein, sur le blog, comme d'habitude.
AAA.fr.
Il y a tout plein de circuits dessus, hein, comme d'habitude. Il y a trois ports PCI, il y a 5 ports ISA, parce qu'à l'époque, c'était quand même des standards, hein, ISA. Le premier prototype utilisait plusieurs processeurs 8 bits, donc c'était des processeurs un peu bizarroïdes. Bah, sauf que le fabricant a arrêté la production à ce moment-là, donc ils ont dû changer tout de suite. Et ils sont passés au PowerPC, donc c'était ce sur quoi le Mac tournait déjà à l'époque. La carte mère reprend plus ou moins le design CHRP. Alors ça, c'était Common Hardware Reference Platform. C'est un pseudo standard en fait, initié par Apple entre autres, pour à l'époque où ils ont essayé de faire des compatibles, donc de faire que d'autres fabricants fassent des machines qui sachent tourner macOS. C'était avant que Steve Jobs revienne et dise non non surtout pas, c'est interdit, la macOS c'est sur les Mac point barre et machin. Et puis donc elle est pas entièrement compatible mais plus ou moins, font bon, puis il y a d'autres standards comme Prep, enfin bon. Mais donc la grosse différence par rapport au Mac de l'époque et puis ses clones, c'est quand même le nombre de processeurs. Donc je rappelle, le processeur c'est un petit peu le cerveau de la machine, c'est ce qui fait tous les calculs et qui le chef d'orchestre du matériel.
Ce qui paraît essentiel aujourd'hui, et d'ailleurs maintenant on a même plusieurs, hein, Quadricœur, Bicœur,
Octocœur. Quadricœur, machin, à l'époque il n'y avait qu'un cœur dans une seule puce, dans un seul processeur, sur la quasi-totalité des machines. Les machines grand public, personne savait ce que c'était que le multiprocesseur. Et donc c'est vrai que pour l'époque c'était assez étonnant. Et donc il y en a deux, donc deux PowerPC 603E. Alors en fait ils ont dû ruser parce qu'en fait le 603E il n'est pas prévu justement pour être utilisé à plusieurs, parce qu'à l'époque c'était pas très courant, et en fait le support vraiment du SMP, donc du multiprocesseur, dans la famille PowerPC est arrivé sur le modèle d'après. Alors il y avait quasiment tout dedans, mais il y avait quand même quelques petits soucis, donc ils ont dû faire des bidouilles dans leur chipset à eux qu'ils ont implémenté dans des FPGA. Pour justement arriver à synchroniser les caches, parce que sinon après du coup y a un processeur qui croit que l'autre il a fait un truc et bon, donc ils ont dû bidouiller un petit peu, mais ça arrive à marcher relativement bien. Donc ces deux PowerPC 603E, alors il y a un modèle avec 66 MHz après ils ont fait à 133 MHz chacun. Et puis il y a d'autres trucs sur la carte mère. Il y a aussi un port SCSI et puis un port IDE. Et d'ailleurs la mienne vient de recevoir un adaptateur Compact Flash vers IDE, et c'est quand même nettement moins bruyant que le disque SCSI d'origine, hein, comme sur Atari c'est pareil, ça change la vie. Et puis alors il y a un truc aussi qui se branche dessus, c'est une carte fille qui regroupe la majorité des connecteurs d'entrée-sortie à l'arrière du boîtier, et alors, là il y en a beaucoup.
Ouais, pour ceux qui ne connaissent rien, donc vous avez toujours dans un ordinateur, vous avez des cartes mères, hein, c'est celle qui principale, les motherboards, hein, celle qui...
Voilà, c'est celle qui reçoit tout, en fait c'est là celle qui a en général le processeur, pas toujours, parce que des fois il est sur une carte fille. Mais en fait, les cartes filles s'insèrent
dans la carte
dans
mère.
Dans des connecteurs sur la carte mère. Au niveau de l'architecture, en fait, la carte qui est en fait au fond, c'est juste une carte avec que des connecteurs pour relier les cartes entre elles. Et en fait, la carte mère, c'est juste une carte fille sur la carte fond de panier, qui est au fond du panier. On parle de panier, il y a des termes vraiment bizarres en informatique, mais c'est comme
ça.
Donc voilà. Et donc là, il y a une carte avec tout plein de connecteurs. Donc il y a 4 ports série, il y a un port pour le clavier,
port joystick,
2 ports joystick,
ouais, il y a ports MIDI.
2 sorties, 2 entrées MIDI.
Ah,
son, hein, ouais.
C'était une musique qui était prévue pour du son alors.
C'est une machine pour le multimédia, donc ouais.
Des ports infrarouges.
Alors, des ports pour brancher des adaptateurs infrarouges, voilà, l'entrée-sortie audio, tout ça. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis un autre truc aussi qui s'appelait le Geekport.
Ah.
Alors pour ceux d'entre vous qui bidouillent un petit peu, qui font de l'électronique un petit peu avec de l'Arduino ou du Raspberry Pi, vous savez que ces petites cartounettes là, elles ont un gros connecteur avec plein de broches, et on peut brancher plein de trucs dessus pour s'amuser, pour faire clignoter des LED et mettre un potentiomètre et tout, ou faire tourner un moteur. Et ben en fait le Geekport, c'est l'ancêtre de ça, parce que dessus, il y avait des entrées-sorties numériques, donc des 0 et des 1, hein, 0 ou plus 5 volts, en entrée ou en sortie, et puis des entrées-sorties analogiques, donc pour envoyer une tension ou lire une tension qu'on met en entrée. Et donc, l'idée, c'était justement que ce soit une machine pour les geeks aussi, pour qu'ils puissent bidouiller et brancher tout plein de trucs et faire tout plein de montage.
Geekport sur mon ordi.
Voilà. Et oh donc, là. En fait, c'est vraiment l'ancêtre de ce qu'on trouve sur les Raspberry Pi, sur ces trucs-là. Quoi.
Ah, c'est vachement d'avance, mine de rien, parce que
n'est-ce pas
pour l'époque, quand même, on remonte à loin, quoi, dans les années... c'était quand, 1980...
95, par là.
95,
ouais.
Vous imaginez, quand même, c'est plus de 20 ans.
Oui, alors que c'était l'époque où, justement, les ordis commençaient à devenir plus ou moins grand public, et donc en fait on cachait tout.
On est loin de l'époque où Apple a commencé à faire des Mac transparents.
Ouais. Et c'était transparent, mais tu pouvais pas changer ce qu'il y avait dedans, c'est dommage.
Il fallait une boîte de... Il fallait un ouvre-boîte.
Ouais, c'est ça. heureusement, depuis, il y a iFixit. Et puis, alors, il y avait un autre truc sympa dessus. Il y a une autre carte aussi sur la façade, avec tout plein de jolis LED. Ça s'appelle Das Blinken Light. C'est le truc là, ce qui fait vraiment pâlir d'envie les Jackie PC. Donc, c'est les Blinken Lights. C'est des petites lumières qui clignotent. En fait, on a deux rangées de LED verticales. Et chacune monte la charge d'un processeur. Donc voilà, quand le processeur travaille, il y a le bar graph.
Ouais, et ça, ça se passe pour de vrai, physiquement, vous le voyez, alors que maintenant, il y a des logiciels qui vous permettent de le voir directement en haut de votre écran. Si vous avez un Mac, par exemple, ça se passe comme ça aujourd'hui.
Voilà, mais là, c'était vraiment, franchement, c'est classieux quand même. Et voilà. Et puis alors il y a l'OS, bon, ça, il faudra que je vous en parle un autre jour, hein, BOS, parce qu'ils ont fabriqué une machine qui était super, mais en fait, ils n'avaient aucun OS pour tourner dessus, parce que macOS, bah, c'était quoi l'intérêt de mettre macOS sur une machine avec deux processeurs, alors que macOS, il s'est déjà
utilisé
qu'un seul, à peine. Donc voilà, Linux commençait à peine, parce que c'est 98, enfin, le tout début, hein, voilà. Donc, bon, et là, et puis alors NetBSD, c'était pas encore porté. Depuis, il y a eu NetBSD qui a été porté, entre autres. Et puis, ils ont commencé à la micro-altimise et enfin commencé à écrire le support dans le bootloader de Haiku pour pouvoir booter Haiku sur la Bbox. Ça serait quand même logique, parce que Haiku, c'est l'héritier de BOS. Donc, bon, voilà.
D'ailleurs, Haiku, tu en parleras sûrement dans une émission prochaine.
Ah, ouais, faudra qu'on en parle. Du coup, j'ai passé une nuit blanche à coder un truc dans les bin utils pour pouvoir arriver à produire l'exécutable qu'il me faut pour pouvoir le charger par la ROM de la Bbox. Enfin bon.
Le truc qui était intéressant aussi à comprendre aussi sur cette machine, c'était l'extraordinaire légèreté de l'OS aussi, qui était vraiment honorable par rapport à toute la lourdeur qu'on avait connue jusqu'à présent sur les Apple quoi, et sur les Windows.
Alors en fait, c'était aussi un des principes qu'ils ont adopté, c'est de partir de zéro, c'est-à-dire de virer en fait tous les trucs comme, bah, c'est pareil, Windows ça, en fait c'est censé être compatible avec un truc qui a 30 ans, parce que c'est compatible avec MS-DOS, avec machin et tout. Et donc, de temps en temps, c'est bien de s'alléger un peu, de laisser tomber les vieilles
vieilles les oripeaux. Et là, pour le coup, c'était vraiment un sérieux avantage à l'époque.
Et puis, alors, le noyau, en fait, il n'était pas si rapide que ça. C'est plus l'architecture, en fait, des applications. Ça, il faudra qu'on en discute plus longuement. Mais c'est les architectures des applications qui, justement, utilisaient pleinement les deux processeurs, parce qu'en fait, le serveur graphique est multithreadé, c'est-à-dire qu'il sait faire plein de trucs en parallèle. Et puis les applications aussi, c'est-à-dire que chaque fenêtre a sa propre boucle d'événements. Et donc du coup, si une application bloque un truc dans une fenêtre, ça bloque pas toute l'application. C'est un peu plus compliqué à concevoir, parce que du coup, il y a des blocages qui peuvent arriver et tout. Mais du coup, ça donne une impression de rapidité, même si au final, c'est pas forcément si rapide.
Au final, BOS la Bbox, ça s'est terminé quand ?
Bi a fermé en 2001, voilà, et puis du coup, il y a Haiku, on s'est dit, il faut réécrire et tout, donc ça fait 15-17 ans qu'on est sur Haiku. Alors, on peut éventuellement, les Bbox, c'est quand même assez rare, il y a de l'émulation qui existe, mais c'est pas vraiment fini, il y a MAM-MES, et puis il y a QEMU, il y a des tentatives, mais c'est pas fini non plus, donc, mais bon, je vais peut-être contribuer à ça, parce que j'en aurais besoin, moi. Voilà.
Merci pour ta présentation de la Bbox, joli rêve qui est passé dans l'histoire de l'informatique des années 90. Nous allons faire une toute petite pause musicale pour nous retrouver pour l'agenda.
I am a web developer. PHP, CSS, JavaScript, XML, PHP, C++, C#, .NET, PHP, CSS, Cold Fusion, Perl, Python, JavaScript, .NET. CSS, PHP, CSS, JavaScript, XML, C++, C#, .NET, JavaScript. HTML5.
I am a web developer. Petite musique rappelle sur certains métiers de développement web. Oui, c'est des choses qui nous parlent. Et nous suite, nous parlons à l'agenda.
Alors, qu'est-ce qu'on a à l'agenda? Soirée libre G3L, le 16 novembre de 19h30 à 23h30. Ouais, il y en a une deux fois par mois, en fait. Donc, c'est à la MJC Châteauvert à Valence.
Le capital du libre à Toulouse. Bon, c'est un peu plus loin, mais c'est sympa à faire.
Ouais, normalement, j'y suis.
Ouais, ce sera le 17 et 18 novembre.
Voilà, c'est à Lensate, avec une orthographe bizarroïde, c'est un acronyme, à Toulouse.
Waouh! Et tout de suite, nous allons frotter la boule de cristal. Que vois-tu dessus? Que vois-tu?
SF, toute vérité n'est pas bonne à dire.
Cosplay, j'ai toujours mimé les habits des autres.
Sysadmin, je te commande, obéis.
Makune, toutes mes données sont dans la pomme, je suis la poire.
Hacker, j'en passe, je n'ai plus de mots à dire.
Graphiste, j'ai juste une mise au point sur mes dessins de vie.
Ouais, c'est juste une mise au point sur mes dessins de la vie. Non,
c'est trop bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, les auditeurs. On vous dit à très bientôt, la semaine prochaine. Retrouvez-nous pour... Notre ami Matt Bell nous proposera de toucher à des claviers.
Ouais.
Alors, à la semaine prochaine, à bientôt. Bye bye.